France Culture.
Talmudique. Dans une époque où le retour du religieux et l'affiliation aux différentes religions se font sentir sous différentes formes, visibles ou discrètes, dans une époque où, en même temps, la laïcité reste un combat nécessaire pour permettre la liberté de pensée et d'expression, pour rendre possible la construction d'un espace commun où se partagent les valeurs républicaines fondamentales, s'interroger sur le judaïsme, à la fois comme vocable et comme réalité sociopolitique, et son évolution à travers les siècles, semble un projet important et salutaire. Qu'est-ce que le judaïsme ? Une religion ? Une culture ? Une identité ? Un héritage ? Sa définition semble être de ne pas avoir de définition, ce qui invite dès lors, inlassablement, à se reposer la question. Les réponses, toujours temporaires, offrent un dialogue avec le monde qui l'entoure, un monde qui souvent aussi influence ces réponses qui deviennent dès lors comme les symptômes de l'ère du temps, la signature d'un lieu et d'une époque. C'est ce que David Lemler, maître de conférence à l'UFR d'études arabes et hébraïques de Sorbonne Université et spécialiste de Maïmonide et des rapports entre religion et philosophie, montre admirablement dans un livre intitulé « L'invention du judaïsme », sous-titré « Comment les juifs se définissent eux-mêmes » qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Un livre essentiel qui montre subtilement et avec une érudition très maîtrisée comment le judaïsme n'est pas seulement hérité, mais sans cesse reconstruit en une création recommencée toujours au contact des autres cultures. C'est ce que nous allons approfondir le temps de deux émissions. David Lemler, bonjour.
Bonjour.
David Lemler, je pense que pour commencer, il est intéressant de faire la généalogie du terme judaïsme. Certains chercheurs que vous citez et avec qui vous entrez en dialogue, je pense à Daniel Boyarin en particulier, pensent que le judaïsme est une notion moderne qui naît avec le christianisme, une invention de l'Église adoptée par les Juifs avec l'avènement de la modernité. On comprend en vous lisant que ce n'est pas une thèse à laquelle vous adhérez. Commençons donc par la thèse de Daniel Boyarin qu'il expose dans un livre qui vient de sortir, en traduction française, aux éditions du Cerf, sous le titre « Judaïsme », sous-titré « La généalogie d'une notion moderne ». David Lemler.
Oui, alors j'espère ne pas caricaturer la thèse de Daniel Boyarin, qui est un auteur que je discute beaucoup et qui m'a beaucoup inspiré dans la réflexion dans ce livre. Alors, lui, son problème, c'est de faire l'histoire du mot judaïsme, et il constate que les juifs n'utilisent cette notion pour se désigner eux-mêmes qu'à l'époque moderne. Et ça se fait dans le contexte de la sécularisation, de la modernité, où il s'agit de se redéfinir, et une des redéfinitions possibles, c'est une définition religieuse, un ensemble de croyances, un ensemble de pratiques restreint dans une sphère précise de l'existence, et qui est distinct de l'existence des juifs eux-mêmes. Et cette abstraction, pour Boyarin, n'apparaît ou n'est revendiquée par les Juifs qu'à l'époque moderne.
C'est-à-dire que pour lui, le terme n'apparaît pas avant.
Le terme est présent avant, d'abord dans des sources extérieures à la tradition rabbinique, disons, dans des écrits du judaïsme hellénistique, et puis ensuite effectivement du christianisme. Mais son idée, c'est que ça n'est qu'à l'époque moderne que ça devient un terme qui est revendiqué pour désigner cette abstraction qu'on appelle communément le judaïsme.
Quand vous dites l'époque moderne, vous pensez à quelle période exactement ?
À partir de l'émancipation des Juifs, à partir de, en particulier, Moses Mendelssohn, qui est crédité d'avoir inventé le judaïsme comme religion, la religion juive.
Pourquoi vous n'adhérez pas à cette thèse de Boyarin, David Lemler ?
Alors, je dirais pas exactement que je n'y adhère pas. Je pense que son travail est très stimulant et très inspirant. Mais simplement, moi, je pose une autre question. Enfin, à partir de sa réflexion, j'ai été amené à poser une autre question qui est non pas l'histoire de faire l'histoire d'un mot, mais de faire l'histoire d'une idée, disons, ou d'un processus que je désigne par le terme de judaïsme. C'est-à-dire que là où je suis en désaccord avec lui, c'est que certes, il n'y a pas le mot judaïsme avant l'époque moderne, une façon pour les juifs de se désigner eux-mêmes, mais le geste qui consiste à essayer de construire une définition, de déterminer un noyau de signification qui exprime ce que sont les juifs, Ça, c'est quelque chose dont j'essaie de montrer que ça existe tout au long de la tradition juive.
Et quels sont les enjeux de votre polémique, si on peut dire ? Quelle importance que le judaïsme exista avant ou n'existe qu'à partir de la modernité ?
L'importance, c'est de ne pas, selon moi, tomber dans l'idée qu'il y aurait, avant la modernité, une espèce de pure existence qui ne se réfléchirait pas, qui ne chercherait pas à se donner un sens. Et c'est cet enjeu-là que j'essaye de faire ressortir, c'est-à-dire que tout au long, peut-être ce qui va caractériser une spécificité de la tradition juive, c'est cette tentative tout le temps reconduite, ou cette question tout le temps reconduite de « mais quel est le sens de notre existence juive ?»
À la fois en tant que pratique et en tant que peuple.
En tant que pratique, en tant que peuple, en tant que manière de penser, en tant que chose qu'on pense.
Le judaïsme, c'est le terme qui est recherché. En fait, c'est un mot vague qui prend un sens différent selon les époques, les langues et les auteurs qui en font usage. En quel sens, vous, David Lemler, entendez-vous précisément ce terme ?
On peut repartir de Boyarine. Boyarine fait l'histoire du mot dans l'usage qu'en font les juifs. Il y a d'autres manières d'utiliser ce mot, et notamment de l'utiliser pour poser en fait un terme sur un ensemble de réalités, mais pas forcément dans les termes mêmes de la tradition qui est étudiée. Et c'est ce type d'usage que je fais du mot. On fait la distinction dans les sciences sociales entre un usage émique, c'est-à-dire les mots qui sont utilisés par une certaine collectivité, et un usage éthique, alors sans H, éthique, c'est-à-dire quand on pose en quelque sorte une étiquette sur un ensemble de choses. Et c'est cet usage-là que je fais. Donc judaïsme comme une catégorie externe à la tradition elle-même. L'usage que j'en fais s'inspire de celui qu'en fait un grand historien du judaïsme qui s'appelle Jacob Neusner, qui s'intéresse en particulier au judaïsme rabbinique, c'est-à-dire au judaïsme qui repose sur l'existence de deux torotes. Mais il construit un concept abstrait de judaïsme, dans lequel ce judaïsme spécifique n'en est qu'un parmi d'autres, et il va désigner par judaïsme toute forme de vie, toute manière de voir le monde, qui repose sur un collectif, qui se réclame d'une forme de continuité par rapport aux enfants d'Israël dont parle la Torah. Et donc de ce point de vue-là, paradoxalement, le christianisme est un judaïsme. Mais ce n'est pas ce judaïsme-là qui m'intéresse, c'est celui des deux torotes.
Vous dites deux torotes, c'est une expression en hébreu, il faut l'expliquer, c'est le pluriel torot, c'est le pluriel de Torah. Et il y a en fait deux Torahs, on va dire de manière plus audible. Quelles sont ces deux Torahs ?
Alors il y a la Torah écrite et la Torah orale.
La Torah écrite, c'est-à-dire en fait le Tanakh, le Pentateuque, les prophètes et ce qu'on appelle les hagiographes. Et puis, il y a l'ensemble des commentaires talmudiques, qui est la tradition orale. Et en quoi ce judaïsme, qui repose sur deux torotes, a quelque chose de si particulier, si essentiel, pour que vous décidiez, à la suite de Neusner, que c'est le judaïsme qui vous intéresse ?
Parce que c'est le judaïsme tel que, précisément, on l'entend dans le langage commun, lorsqu'on parle simplement du judaïsme sans autre adjectif. C'est-à-dire que toutes les formes du judaïsme désigné comme tel aujourd'hui, découle de la tradition rabbinique, que ce soit le judaïsme le plus orthodoxe ou le plus libéral.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le judaïsme contemporain, comme on pourrait dire le judaïsme qui a toujours été, est issu de ce judaïsme qu'on pourrait dire aussi pharisien, c'est-à-dire qui a introduit dans la lecture des textes la dimension du commentaire.
Je ne sais pas si ça a toujours été, je pense que ça n'a pas toujours été. Justement, oui. Il y a d'autres formes de judaïsme que celle-là, mais il se trouve que c'est celle qui est devenue hégémonique, disons, oui. Même si on parle d'une religion ou d'une identité qui est complètement minoritaire, au sein du champ du débat de ce qui fait, de ce qui va définir être juif, être les continuateurs des enfants d'Israël, c'est le judaïsme rabbinique qui est devenu majoritaire, et qui fait que c'est lui qu'on désigne quand on parle
de judaïsme. Alors, cette articulation des deux Torahs, ou des deux Torotes en hébreu, comme vous dites, implique beaucoup de choses, en particulier la question de l'étude et de l'interprétation, et ce que vous appelez la réflexivité, une réflexion comme retour sur soi, sur sa condition et sa définition. C'est l'une des questions, voire la question, qui constitue la colonne vertébrale de votre réflexion, au point que vous appelez le peuple d'Israël, ou Israël, une minorité réfléchissante, réfléchissant essentiellement sur sa persistance étonnante à travers l'histoire, David Lemler.
Oui, alors j'appelle réflexivité le mouvement par lequel on opère, les Juifs opèrent de manière récurrente un retour sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils posent un geste de pensée sur eux-mêmes qui suppose une forme de point de vue externe. La réflexivité, ça suppose une sorte de scission entre soi en tant qu'on existe et soi en tant qu'on se regarde exister et qu'on se demande ce qu'on est, pourquoi on existe, quel est le sens de notre existence. Et je pense que la condition minoritaire qui a caractérisé les Juifs depuis fort longtemps a suscité cette réflexivité, cette nécessité de se réfléchir. Et en même temps, par la formule minorité réfléchissante, j'entends aussi le miroir. C'est-à-dire que c'est une minorité qui réfléchit, qui produit un effet de miroir pour la société majoritaire au sein de laquelle elle se trouve. Par le fait qu'elle met en question sa propre identité, elle met en question aussi, en miroir, l'identité de la société majoritaire au sein de laquelle elle évolue. Et je pense en particulier à la longue histoire des relations entre christianisme et judaïsme, puisque les Juifs ont été la seule minorité en Europe pendant des siècles, la seule minorité reconnue comme telle. Et donc, il y a une forme de fonctionnement en miroir entre Juifs et chrétiens. Pour la société chrétienne, le judaïsme a constamment mis en question sa propre identité.
Vous voulez dire que la réflexion des Juifs sur leur propre identité a infléchi aussi une réflexion du christianisme ou de cette communauté majoritaire sur sa propre identité. Donc c'est une forme de dialectique identitaire produite par cette réflexion. Et vous nous expliquez dans votre ouvrage que cette réflexivité est articulée dialectiquement à la facticité, un terme que vous reprenez de Lévinas qui parle de la facticité juive. Il faut nous expliquer ce que c'est que cette facticité. Et on comprend que la tension entre réflexivité et facticité est essentielle. Qu'entendre dans ce terme de facticité et en quoi la tension dialectique avec la réflexivité permet de comprendre les enjeux de cette invention du judaïsme, une expression que je vous demande aussi de nous expliquer, parce que l'invention du judaïsme est une expression forte, David Lemler.
Alors, facticité, invention, c'est des termes effectivement forts, un peu provocants. Dans facticité, on peut entendre que quelque chose est factice, quelque chose est faux, quelque chose est fabriqué. Alors, c'est pas dans ce sens-là que je l'utilise dans le sens de Lévinas, qui lui-même le reprend, en lui modifiant sa signification, à Sartre. Donc, c'est très lié à l'existentialisme, et ça désigne, en fait, le fait d'être un fait, le fait que quelque chose existe factuellement, que ce soit un fait. Et la dialectique que j'essaye de mettre en lumière dans le livre, une histoire longue d'un problème, de la manière dont les Juifs se définissent eux-mêmes, c'est une dialectique entre justement l'idée que être juif, c'est être juif et rien d'autre, quelque chose qui est irréductible à tout noyau de signification qu'on voudrait plaquer dessus, et le geste qui consiste à questionner en permanence le sens de ce fait. Alors quant au titre, effectivement, il mérite peut-être une explication, parce qu'il y a un clin d'œil à un autre titre qui avait fait beaucoup parler de lui, qui est le livre de Shlomo Sand, « Comment le peuple juif a été inventé », qui est un livre radicalement antisioniste, qui essaye d'expliquer que le peuple juif, la notion de peuple juif, est une invention des sionistes, et que le judaïsme n'a été qu'une religion tout au long de son histoire. Donc il ne s'agit pas du tout d'emprunter cette voie-là, mais au contraire de redonner un sens positif au terme d'invention. C'est-à-dire d'expliquer en quoi les Juifs ont constamment réinventé ce qui fait qu'ils sont Juifs et en quoi ça fait partie précisément de ce qu'ils sont.
Il y a trois étapes clés d'une certaine manière dans cette réinvention. Quels sont ces trois moments clés? Comment la réflexivité change cette facticité?
Alors les trois moments que j'étudie, c'est l'Antiquité tardive, le Talmud, la littérature talmudique, le Moyen-Âge juif, en particulier dans le monde musulman, et la modernité, telle que je l'ai définie précédemment, l'émancipation et la crise de l'identité juive qu'elle a occasionnée, et comment cette crise, ces différentes situations, ont donc la fondation d'un judaïsme exilique dans le Talmud, la confrontation avec une société musulmane dans le Moyen-Âge et l'entrée dans la modernité, a suscité à chaque fois un effort de redéfinition de soi, de ce collectif qui existe de fait. Et c'est en ce sens-là qu'il y a, on peut parler d'une sorte de tension dialectique, c'est-à-dire qu'il y a un fait de l'existence juive qui appelle une interrogation sur son sens. Et puis parfois, le sens qui a pu être donné à ce fait devient caduque, devient inadapté à une nouvelle situation et appelle une reformulation.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que, en fait, étant donné que les Juifs sont en exil et dans un milieu extérieur qui est différent d'eux, et que ce milieu change, ça amène à cette réinvention constante. C'est-à-dire que si les Juifs n'avaient pas vécu en milieu soit musulman, soit chrétien, et avec l'histoire qui l'a accompagné, peut-être qu'ils n'auraient pas réinventé à chaque fois le judaïsme. C'est ça qui est important à comprendre.
Tout à fait, donc ça se joue dans une forme de relations avec la société majoritaire, avec la manière dont on pense à un certain moment, avec les enjeux spécifiques d'une certaine époque. Et ça, c'est très sensible et je pense que c'est très important aussi de le dire, qu'il y a une forme de co-création entre, en particulier, ces trois univers symboliques que sont le christianisme, l'islam et le judaïsme, quel que soit l'ordre dans lequel on va placer ces termes.
Nous sommes en train d'entendre un extrait du disque Luz de la Mediterranea, de l'Occitanie à l'Andalousie médiévale, chant des troubadours du XIIe siècle, par l'ensemble Eduardo Paniaga et l'ensemble Tréfontané. Si j'ai tenu David Lemler à faire entendre cette musique, c'est qu'elle nous plonge immédiatement dans la sphère arabo-musulmane du Moyen-Âge, à laquelle, David Lemler, vous consacrez une longue et importante réflexion sur ce que vous appelez l'invention du monothéisme juif. Nous allons y revenir très en détail, mais avant cette période, tout au long des trois quarts du premier millénaire, vous nous plongez au cœur du monde talmudique, qui est le premier des trois moments clés de l'invention du judaïsme que vous avez évoqué. Comme souvent dans le Talmud, ce sont des histoires, des récits, qui sont le point de départ à la réflexion philosophique ou juridique. Quels sont ces récits talmudiques qui forment le noyau de cette réflexion autour de la question de la définition qui en serait la quintessence ?
Alors, je me suis intéressé dans la littérature talmudique à des textes qui sont assez, en fait, exceptionnels, qui sont souvent très connus, mais qui sont paradoxalement des exceptions, parce que le discours rabbinique, talmudique, il consiste en général à s'intéresser à un détail de la Torah, et à faire comme si l'ensemble, la compréhension de l'ensemble était présupposée, et puis on va isoler un point, le Shabbat, le mariage, ou que sais-je, et en discuter de manière très très détaillée. Mais il y a quelques textes que j'ai essayé de lister, alors, qui posent la question de savoir quelle est la signification de l'ensemble. Il y a un texte qui est particulièrement connu, une histoire, effectivement, une Haggadah particulièrement connue, qui est l'histoire d'un non-juif qui veut se convertir au judaïsme, qui va consulter les grandes autorités de son temps, on est au 1er siècle avant l'ère chrétienne, il a les chamailles, et qui leur demande à chacun de le convertir à condition de résumer toute la Torah sur un pied. Shammai refuse de répondre à cette question qu'il ne supporte pas. On peut entendre que, justement, il refuse la question de cette idée qu'on pourrait résumer toute la Torah sur un seul pied. La Torah est irréductible, insynthétisable. Elle n'a pas d'essence au sens de un résidu, quelque chose qui serait essentiel par différence avec tout ce qui serait accessoire. Tandis que Hillel répond de manière très célèbre à cette question par une formulation de la règle d'or, ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Mais il ajoute, là est toute la Torah, le reste n'est que commentaire, va, étudie. Alors moi j'envisage cette scène comme une scène paradigmatique, c'est-à-dire quelque chose qui, un dispositif de pensée, qui va ensuite se retrouver à différents moments de l'histoire de la tradition juive, avec un pôle réflexif qui correspond à Hillel, qui accepte la question, qui accepte de se soumettre à ce défi de résumer la Torah, de lui déterminer un noyau de signification, et un pôle de la facticité, donc Hillel étant la réflexivité, Shammai étant la facticité, ce pôle qui refuse les termes mêmes de la question. Alors ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est plein d'aspects, notamment que la question vienne de l'extérieur, mais qu'elle suscite un débat donc de quelqu'un qui veut se convertir, mais qu'elle suscite un débat sur finalement le sens de ce qui fait qu'on est juif, mais dans l'intériorité même de la tradition. Il y a par ailleurs la réponse de Hillel qui est intéressante, parce qu'elle intègre en quelque sorte la critique de Shammai, puisqu'elle consiste à dire, oui, on peut proposer une certaine définition de la Torah, mais il n'en reste pas moins qu'il faut l'étudier dans sa totalité. Autre aspect qui est intéressant, c'est qu'on a là une certaine formulation de ce que vous avez appelé la quintessence du judaïsme, ou la quintessence de la chose juive. Il y a une certaine manière de poser la question avec un certain concept, qui est le concept de Torah. Et dans les époques ultérieures, ce ne sera pas forcément ce concept-là qui va être mis au centre.
Alors, il y a un autre texte du Talmud qui cherche aussi à résumer la Torah. On part d'un principe classique où il y a 613 commandements et un certain rabbin et des rabbins vont chercher à se dire est-ce qu'on peut pas résumer ces 613 commandements à un seul commandement pour en trouver justement la quintessence du judaïsme. David Lemler.
Oui, alors ça c'est un texte très très intéressant qui est à la fin du traité Makot du Talmud. Un texte qui commence par un enseignement de Rabbi Simlai, donc un rabbin du 3e siècle, qui explique que 613 commandements ont été donnés à Israël. Et c'est de là qu'on apprend ce chiffre très très connu de 613. D'ailleurs, il y a tout un débat médiéval pour savoir s'il faut l'accepter comme un fait incontestable ou si c'est simplement une métaphore. Et ce même texte qui introduit ce nombre de 613, ensuite, va proposer une sorte de réduction des 613 à de moins en moins dénoncés. Alors, on ne sait pas si c'est des commandements, des valeurs, des préceptes, pour arriver de 10 ou 11 à 6, pour finir avec un seul, qui est un fameux verset du prophète Habakkuk, Tzadik Beimunato Yirhye, le juste vivra dans sa émouna, dans sa croyance, dans sa foi, dans sa confiance, selon la manière dont on va le traduire, et qui est un verset très très important dans les épîtres de Paul. Mais ce qui est très intéressant, si on laisse de côté pour l'instant ce dernier point, c'est déjà le processus, c'est-à-dire le fait qu'on a ce texte qui commence par dire 613, qui est un chiffre qui signifie une espèce de totalité. C'est 248 mitzvot positives, les commandements obligatoires, les actions qu'il faut faire. Et 365, c'est le nombre d'interdictions. Donc il y a cette idée que la Torah est une loi qui prend en compte la totalité de l'existence, et en même temps, la tentative de la réduire à une espèce de noyau essentiel, justement.
On va laisser la période talmudique derrière nous, et on va en tout cas la continuer. Nous pouvons en venir maintenant au second moment de l'invention du judaïsme, c'est-à-dire à la période médiévale, où une question quasiment inexistante dans le judaïsme talmudique va surgir avec force et modifier de manière durable le visage interne et externe du judaïsme, c'est la question de la croyance en Dieu et de la foi qui va apparaître. Ça n'apparaissait pas avant, même si dans la fin de ce que vous venez de dire, on dit que le juste va vivre par sa foi. Qu'est-ce qui conduit les penseurs de cette époque à s'engager dans cette voie, David Lemler?
J'ai parlé d'invention du monothéisme juif, d'invention médiévale du monothéisme juif, quelque chose, une formule qui résonne avec des idées développées par Henri Atlan, qui était l'invité il y a quelques semaines de l'émission. Alors, je souscris tout à fait à cette idée que la question de la croyance comme concept définitionnel d'Israël est une invention médiévale et qu'elle est liée au contexte, à la crise qui est introduite par l'immersion des Juifs dans le contexte musulman. Mais je dirais pas qu'il s'agit de quelque chose de fondamentalement négatif ou d'une dénaturation de quelque chose qui serait un judaïsme originaire plus authentique. Ça fait partie de la définition même, du fonctionnement même du judaïsme que d'être constamment redéfini. Et là, on a une certaine manière de le redéfinir à l'époque médiévale et dans des termes nouveaux. On a vu tout à l'heure que le Talmud posait la question de qu'est-ce qui résume toute la Torah sur un pied. Là, il s'agit de demander qu'est-ce qu'il faut croire pour être juif. Alors pourquoi ça se dit dans ces termes-là? Parce que on a un certain nombre d'auteurs et d'auteurs majeurs de la tradition juive, Saadia Gaon en particulier, au Xe siècle, et puis ensuite une ligne de penseurs qui aboutit à Maïmonide au XIIe siècle, qui sont donc confrontés à une effervescence intellectuelle, à une confrontation d'un certain nombre d'écoles, à la fois philosophiques et religieuses, et à une nécessité de définir leur collectif, leur communauté, par des croyances particulières. Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a pris une place centrale dans le contexte musulman, et que cette place centrale dans le contexte musulman, elle provient probablement d'une influence chrétienne. Je disais tout à l'heure que le verset de Habakkouk était cité par Paul, parce que pour Paul, c'est la preuve que c'est la foi qui compte et pas la loi. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est comme si la foi qui avait servi à définir ce qui allait devenir le christianisme par différence avec le judaïsme de la loi, la foi revient, fait retour en quelque sorte dans le judaïsme par l'intermédiaire de l'islam. Et donc on va avoir une reformulation de toute la compréhension même de la Torah en mettant au centre cette notion de croyance avec un sens différent de celui qu'on trouve dans le verset du prophète.
Pourquoi ?
Parce que pour Habakkouk, il est clair que, quelle que soit la signification de son verset, il est clair qu'il ne s'agit pas de dire qu'il faut croire quelque chose à propos de Dieu. Il faut avoir la foi, il faut avoir confiance en Dieu. Mais pour Saadia Gaon ou pour Maïmonide, quand on parle de croyance, on parle de croire en quelque chose. Parler de croyance propositionnelle, c'est croire, avoir confiance en quelqu'un, croyance-confiance, contre la croyance propositionnelle, croire que quelque chose est vrai. Et à propos de Dieu, à l'époque dont on parle, ben on va introduire toute une série de croire que. Il faut croire que Dieu existe. Il faut croire qu'il est un. Il faut croire qu'il n'a pas de corps. Autant de choses qui paraissent en fait tout à fait étranges quand on lit le texte biblique. Quand on lit le texte biblique, et ben il est très difficile de dire que Dieu n'a pas de corps, puisque d'un côté on dit effectivement qu'il est irreprésentable, qu'au Sinaï vous n'avez rien vu, aucune forme, etc. Et d'un autre côté, ben, Dieu a des mains, il regarde les hommes, il descend pour voir, il intervient dans l'histoire, il parle. Et donc, souscrire à l'idée d'une incorporéité absolue de Dieu, ça suppose de poser une opération rétrospective de lecture à partir d'un certain concept qu'on s'est construit de Dieu pour que le texte biblique s'accorde avec cette idée.
C'est tout l'enjeu du premier tome du Guide des Égarés.
Voilà, tout à fait. C'est toute la première partie du guide est une lecture des anthropomorphismes où il s'agira pour Maïmonide de dire, bon, évidemment, Dieu ne peut pas avoir de main. Donc le mot main, lorsqu'il est appliqué à Dieu dans la Bible, veut dire puissance, le mot voir veut dire providence, etc. Mais des auteurs tels que Spinoza diront que c'est une violence faite au texte de dire une telle chose. Il faut le lire pour ce qu'il dit Et rien n'indique, a priori, qu'il faudrait exclure un sens plus concret de ces termes. On a l'impression que ça a toujours été ainsi. Donc ce qui s'est passé à l'époque médiévale avec Sadia Gaon et Maïmonide et d'autres, c'est qu'il y a eu toute une série d'opérations de relecture des sources antérieures. Et ça, j'essaye de travailler sur ces opérations de manière très précise dans le livre. Par exemple, Maïmonide introduit l'idée que le premier des fameux 10 commandements, 10 paroles, « Je suis l'Éternel ton Dieu », fait sortir d'Égypte, etc., que cet énoncé est une injonction à croire que Dieu existe. Ce qui n'est pas du tout évident à la lecture de ce verset. D'ailleurs, toute une série de critiques de Maïmonide au sein de la tradition juive lui ont fait remarquer que c'était difficile de lire là-dedans un commandement, que par ailleurs c'est compliqué de penser une obligation de croire quelque chose. Mais ça, c'est quelque chose qui a eu un certain succès. Beaucoup de gens qui spontanément souscrirait à cette idée que le premier des 10 commandements, c'est de croire en l'existence de Dieu.
Merci David Lemler pour cette conversation passionnante. Je vous propose de la poursuivre la semaine prochaine pour découvrir avec vous le troisième moment de l'invention du judaïsme, pour aborder donc la période moderne. Nous verrons comment le judaïsme ne cesse de s'inventer au fil des événements historiques qui traversent le monde. Je rappelle le titre de votre livre, « L'invention du judaïsme », sous-titré « Comment les juifs se définissent eux-mêmes ». C'est aux éditions Albin Michel, un livre particulièrement stimulant pour la pensée et la compréhension non seulement du judaïsme, mais aussi de l'évolution et la construction des religions. Merci encore David Lemler.
Merci Marc-Alain Wachnin.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Alexandre Dang, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudique. Au nom de toute l'équipe de Talmudique, je souhaite à toutes les auditrices et les auditeurs une très belle et bonne fin d'année 2025. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.